3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. David Cronenberg est né le 15 mars 1943 dans la ville de Toronto. Fils d'une pianiste et d'un écrivain, il étudiera au Harvard Collegiate Institute, puis obtiendra son diplôme en littérature à l'Université de Toronto. Malgré des études de sciences, Cronenberg se tourne rapidement vers le milieu artistique. Dans la veine du cinéma expérimental new-yorkais, il réalise deux courts-métrages, soit Transfer en 1966 et From the Drain en 1967. Puis, il passe au long-métrage en 1969 avec Stereo, puis Crimes of the Future l'année suivante. Afin de financer ses projets, Cronenberg se tournera vers des sociétés de production de films pornographiques, ce qui lui permettra alors de développer ses thèmes de prédilection, soit la sexualité, le corps humain comme terrain d'expérimentation, le danger de la contamination, la médecine et la psychanalyse. Il connaîtra alors son véritable premier succès commercial en 1981 avec le film de science-fiction Scanners, succès qui sera suivi par un autre avec Videodrome, puis finalement de Dead Zone, ce film étant adapté du roman du même nom de Stephen King. Mais ce sera vraiment le remake de The Fly en 1986 qu'il fera en sorte qu'il obtiendra finalement une reconnaissance internationale qui lui permettra alors de réaliser des projets beaucoup plus personnels tels que Dead Ringers, Naked Lunch, Crash, Existence, Spider, A History of Violence et Eastern Promises, sans oublier A Dangerous Method, Cosmopolis, Maps to the Stars et plusieurs autres. En 2008, il prend la direction de deux projets extra-cinématographiques, soit l'exposition Chromosome au Palais des Expositions de Rome et l'opéra The Fly, d'après son propre film, à l'Opéra de Los Angeles et au Théâtre de Châtelet à Paris. De plus, il se permettra même quelques expériences à titre d'acteur dans différents films dont Nightbreed de Clive Barker et Jason X, qui sera mis en scène par le défunt réalisateur James Isaac. Ce sera cependant ses débuts controversés au cinéma au milieu des années 70 qui nous intéressent beaucoup plus ici dans cette émission et nous allons souligner ce départ avec ses films Shivers, réalisé en 1975, et Rabid en 1977. Donc, dirigeons-nous vers la ville de Montréal et laissons sortir nos instincts les plus primaires tout en vivant une pandémie de rage à travers ces deux longs-métrages canadiens qui ne laisseront personne indifférent et qui permettra à l'un des plus grands réalisateurs canadiens de percer le marché hollywoodien.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
What is it?
Say,
what is it?
Hey, why, it's Buttercup. Popcorn and sweet green butter, two hot popcorn. Mix it up, wrap it up, Buttercup is born.
It's delicious.
So nutritious.
It's a taste delight.
It's so munchy,
crisp and crunchy.
You'll enjoy each bite.
Eat butter drenched, buttercup, popcorn at its best.
Served in a king-size cup.
It beats all the rest.
You'll have instant response to the slightest touch of the accelerator. Hill-climbing power to whisk you easily up and over any grade. Agile performance at highway cruising speed. Passing power to get you out and around in a hurry. Make driving safer. The heart of all this get-going power is Ford's new 202-horsepower Thunderbird Y8 engine. Available in every Ford-O-Matic Ford Fairlane and station wagon model for 1956. Experience the thrill of commanding this great new engine. Test drive a 56 Ford with Thunderbird Y8 power at your Ford dealers soon.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
If you think you're not afraid of the dark, if you think you have a strong stomach, if you feel nothing can shock you, if you say you don't scare easily, if you believe you've seen everything, then prepare yourself for a motion picture that takes you beyond fear, beyond your wildest nightmares, and brings you face to face with terror, beyond the power of priest or science to exorcise. What are they? Raging demons from another world? Bloodthirsty creatures that must be killed? Or incarnations of absolute evil? They possess men, women, and children, and drive them to acts of unbelievable horror. No one is safe from them. No power on earth can stop them. The only escape is death. If this picture doesn't make you scream and squirm, you'd better see a psychiatrist. Quick.
Shivers, connu également sous le titre « They Came From Within » ou « The Parasite Murders » ou encore en version française « Frisson », est un drame d'horreur qui a été distribué par les studios Cinépix Films, qui deviendra plus tard Lionsgate, le 10 octobre 1975. Ce film canadien d'une durée de 87 minutes a coûté plus de 185 000 $ à produire, mais ramassera plus de 5 millions de $ à travers le monde entier. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène, le Canadien David Cronenberg, celui qui nous a donné The Dead Zone, Existence, Scanners et Vidéodrome. Au niveau de la production, c'est le producteur canadien Ivan Reitman, lui qui a produit des films tels Heavy Metal, National Lampoon's Animal House et Hitchcock. Et au niveau de la scénarisation, eh bien c'est à nouveau David Cronenberg, ce scénariste canadien qui a écrit les scénarios de The Brood, Naked Lunch, Dead Ringers et The Fly. Au niveau de la distribution, on y retrouve les acteurs Paul Hampton, Joe Silver, Lynn Lowry, Alan Migikowski, Susan Petrie et Barbara Steele. À Montréal, un médecin tente des expériences avec un parasite artificiel en faisant des greffes d'organes vitaux. Mais ce parasite, très contagieux, va rapidement se propager aux résidents d'un immeuble de banlieue qui les transformera en démons fous ayant des poussées de sexualité et de violence sans précédent. Après avoir étudié la littérature anglaise et obtenu son diplôme avec distinction au University College de Toronto, au Canada en 1967, David Cronenberg se découvrira une affinité significative pour le cinéma. Après avoir réalisé 4 courts-métrages, notamment Stereo en 1969 et Crimes of the Future en 1970, Cronenberg développera un scénario initialement intitulé Invasion of the Blood Parasite, puis Orgy of the Blood Parasites, afin de réaliser lui-même son tout premier long-métrage. Une fois terminé, il faudra au jeune réalisateur plus de 3 ans pour trouver du financement pour faire le film. Après avoir approché le producteur Roger Corman, qui se montra alors intéressé à produire le long métrage, ce sera finalement la compagnie de production de films érotiques Cinépix qui acceptera de financer en partie ledit projet. À cette époque, il n'existait pas vraiment de studio de production important au Canada et encore moins de films d'horreur dans le style que voulait développer le réalisateur canadien. Incertain des talents de Cronenberg, Cinépix proposera alors le projet à d'autres réalisateurs avant que le metteur en scène, maintenant âgé de 32 ans, négociera une entente avec la petite compagnie de production, acceptant de réaliser une scène pornographique pour celle-ci en échange du poste de réalisateur pour le long métrage. Par la suite, le jeune metteur en scène approchera le producteur canadien Ivan Reitman pour l'aider à trouver le reste de son financement, ce qui se fera à travers la Canadian Film Development Corporation, signifiant ainsi qu'une partie du long métrage sera financée en partie avec l'argent des contribuables canadiens. À l'origine, les parasites furent conçus comme des araignées, mais ces créatures furent alors transformées en gigantesques sangsues en raison de contraintes budgétaires. Tirés par des lignes de pêche, les effets furent réalisés par le maquilleur Joe Blasco, car il n'existait aucune compagnie au Canada spécialisée dans le domaine des effets spéciaux à cette époque. N'ayant aucune expérience sur un plateau de tournage professionnel, David Cronenberg devra apprendre au fur et à mesure de cette production qui ne durera seulement que 2 semaines. En si peu de temps, David dut apprendre toutes les différentes fonctions de son personnel sur le plateau de tournage, comment déléguer des tâches et comment budgéter et planifier tout en filmant plusieurs séquences impliquant des effets pratiques. De plus, Cronenberg devait dire à des acteurs sans expérience quoi faire durant les séquences, ce qui expliquera pourquoi ce dernier n'aura pas beaucoup de temps pour s'occuper des comédiens professionnels qui seront alors laissés à eux-mêmes. Le tournage de 15 jours aura lieu d'août à septembre 1974 à Montréal, notamment sur l'île des Sœurs. Le film sera tourné dans et autour d'un complexe de condominiums appelé Tourelle-sur-Rive, un immeuble à appartements conçu en 1962 où vivront les acteurs ainsi que les membres de l'équipe de production durant le tournage. Situant l'action dans cet immeuble, cela permettra à Cronenberg de sauver énormément sur le budget ainsi que sur le temps de tournage. La production ne fut pas de tout repos pour David Cronenberg, notamment à cause du climat tendu entre lui et l'actrice Barbara Steele, qui n'appréciait pas vraiment les méthodes de travail du jeune réalisateur. Une des raisons de ce conflit viendra du fait que l'actrice Suzanne Petry était incapable de pleurer pour ses séquences et demandera alors au réalisateur de la gifler, et ce pour chacune des prises. Cronenberg, qui n'avait encore jamais battu personne jusqu'à présent, acceptera la demande de l'actrice avec difficulté. Lorsque la star Barbara Steele tournera sa première scène avec Cronenberg et Petrie, celle-ci sera témoin du geste et, une fois la scène terminée, confrontera alors le metteur en scène avec colère. Après avoir calmé cette dernière, Cronenberg lui raconta ce qui était réellement arrivé. Une fois que Suzanne Petrie ait confirmé l'histoire, eh bien Barbara Steele pardonnera alors au réalisateur canadien. Vers la fin du long métrage, les infectés sautent dans une piscine. Ce sera finalement des membres de l'équipe technique qui se déshabilleront et sauteront dans l'eau. De plus, la majorité des infectés furent interprétés par les habitants du complexe où le film était tourné. Cronenberg, ayant mis des posters dans les ascenseurs de l'établissement annonçant que la production avait besoin de figurants. Le producteur Ivan Reitman sera également crédité en tant que superviseur musical parce que la production ne pouvait pas se permettre d'avoir un compositeur. Reitman fera alors l'acquisition de quelques partitions musicales pour peu de frais. Une fois le tournage terminé, Shivers sera distribué de manière très confidentielle dans les réseaux de films. Intitulé à l'origine The Parasite Murders dans la version canadienne, avant de voir son titre changé pour Shivers, le film de Cronenberg sera alors introduit aux États-Unis en juillet 1976 sous le titre de They Come From Within. Malheureusement, et ce sans surprise, Shivers fera l'objet de critiques très sévères à son égard. Mais ce sera l'article du journaliste canadien Robert Fulford qui sera très virulent envers le film et qui dénoncera alors le fait que le long métrage était en partie financé par le Canadian Film Development Corporation. Cet article causera beaucoup d'émoi et de débats au Parlement, canadien sur la question de savoir si les fonds des contribuables devraient être alloués à ce genre de long métrage. Une discussion vraiment compliquée par le fait que Shivers sera l'un des rares films réalisés sous ses auspices à générer un véritable profit. Durant l'été de 2013, les producteurs Jeff Sackman et Michael Baker annoncèrent leurs intentions de produire un remake du film de Cronenberg qui serait adapté aux réalités sociales et sexuelles d'aujourd'hui. Le film, dont le tournage devait débuter au début de 2014 sous la direction de la réalisatrice Rye Rasmussen, sera en bout de ligne abandonné alors que l'actrice-réalisatrice quittera, elle, le monde du cinéma pour devenir photographe. Maintenant, si on fait l'analyse du film, la première moitié du film est assez intrigante, assez pour dire qu'on se laisse embarquer dans l'histoire puis qu'on voit pas trop le temps passer. On a un bon concept de film, malheureusement, qui est miné par un petit budget, parce que c'est quand même pas beaucoup d'argent que Cronenberg avait entre les mains pour réaliser sa première œuvre. Malgré ça, le metteur en scène va quand même bien s'en sortir, et c'est d'ailleurs là qu'on va voir le début de sa fascination avec ce qu'on appelle « the flesh » ou « la chair ». Ce qui est étonnant, c'est que malgré les problèmes de scénario, les problèmes techniques, et le fait que par moments, le film peut, malgré lui, être loufoque, Cronenberg réussit par moments à nous donner des séquences qui sont creepy, des séquences qui vont nous foutre la chair de poule et ça va nous montrer le talent du metteur en scène, même si comme première réalisation, on comprend que ce n'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de points faibles que de points forts. Et la majorité sont principalement dus avec le petit budget. Donc, des effets spéciaux qui sont vraiment de bon niveau. On a une interprétation qui est presque inexistante. On a des dialogues qui sont quelque peu ridicules. Il y a des grosses erreurs de continuité, genre, il y a un médecin qui mange à un moment donné un concombre. Il prend une mordée. On voit le médecin avec qui il était s'en aller dans son établissement, rencontrer quelques patients, même rencontrer un autre homme d'affaires. Et à un moment donné, on revient avec ce médecin-là qui va prendre quoi? Sa deuxième mordée dans son concombre. Donc, on voit vraiment qu'on a été vraiment au strict minimum au niveau de la réalisation. L'autre chose aussi, c'est la technique du film qui est vraiment primaire. Mauvaise qualité de son, une caméra qui est très statique. On fait juste placer la caméra en avant puis on fait jouer de l'action. Et je vous dirais que les acteurs ne bougent pas bien parce qu'ils ne veulent pas manquer leur X pour éviter de faire le plus de mise au foyer possible. Mais comme je disais tantôt, c'est un projet qui est miné par un budget qui est presque inexistant, un point tel que ça a l'air par moment d'un film amateur. L'autre chose aussi, c'est qu'après avoir une première moitié de film qui est quand même intéressante, la deuxième moitié du film s'en va sur des effets faciles et répétitifs, un point tel que l'histoire revient redondante et que ça devient ennuyant, et même qu'on se rend compte que le seul objectif du réalisateur rendu là, c'est de choquer son auditoire. Au niveau de la musique, eh bien, il n'y a pas vraiment de trame sonore qui a été faite. Ivan Reitman s'est occupé de superviser au niveau de la musique les musiciens Eugene Scenes, Naresh Sohal, Alan Langford, Trevor Duncan, John Killior et John Lewis, ainsi que John Gale et Dubravko Detoni. Donc, tous ces musiciens-là ont composé des musiques pour le film Shivers, mais il n'existe aucune trame sonore du film en question.
Thank you. and gentlemen, our next attraction.
There are candy bars galore in the lobby candy store, just in case you want a taste of something sweet.
Our popcorn is nutritious, you will find it delicious.
Most anything that you would care to eat. Cooling drinks that are so grand, simply name your favorite brand. Or some ice cream so good and helpful too. If you feel you need nutrition, now's the time, it's intermission. Step right up, we have the very best for you.
Red alert! The Mysterons are in control of the post office tower. The European communications network is thrown into confusion. Big Orbit will put the Mysterons out of action. Communications are restored. Orbit is the greatest. Now, release the news about the European adventure cards. Free with every Orbit.
Big Orbit. Only ninepence from Lion's Mate.
For our patrons, men, women, boys, girls, through the cooperation of leading business places, you may now have free admission to this theater. Ask for dividend tickets when you shop at... Names of merchants who give dividend tickets are listed in the lobby of the theater and on circulars at the concession stand. Dividend tickets will be accepted on all standard box office priced films. So take a circular with you today and start saving dividend tickets tomorrow when you shop. See your next movie completely free.
Golden pure creamery butter, rich, flavorful, satisfying. That's what it takes for the finest buttered popcorn, and that's what we use. See for yourself why there's no showtime treat to equal the crisp, delicious flavor of hot popcorn that's bathed in real melted butter. It's at the concession stand now.
Yum, yum. It's a meal in itself. Our all-meat super dog. Enjoy one now.
And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
People are dying, and only Rose knows why.
You gotta come quick. You gotta come quick and get me.
It's Rose. It's gotta be. Something's happened to Rose.
Health officials have said they consider the outbreak of the new strain of rabies as being potentially the worst of this century.
Don't scream. Don't panic. He's dead. And the dead can't hurt the living. Rabbit.
The Prime Minister was reluctant to officially declare a state of emergency, but as any citizen in the streets can tell you, martial law has come to Montreal.
Get that guy.
I'm sorry, sir.
I'm sorry, sir.
Don't push.
Don't have
leave
a car. Down, please.
Are you all right?
Shooting down the victims is as good a way of handling them as we have got.
Stop! Stop or I'll shoot!
You can't trust your mother. Your best friend. The neighbor next door. 1 minute, they're perfectly normal. The next, rabid. Pray it doesn't happen to you. Rabid.
Rabid, ou Rage, est un drame d'horreur qui a été distribué par les studios Cinépix et New World Pictures le 8 avril 1977. Ce film canadien d'une durée de 91 minutes a coûté 530 000 $ à produire, mais ramassera plus de 7 millions de $ au niveau du box-office mondial. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène canadien David Cronenberg, lui qui a donné des films tels Spider, Crimes of the Future et Existence. Cronenberg sera également scénariste ici, lui qui a écrit les scénarios de ses films Scanners, Videodrome et Naked Lunch. Et au niveau de la production, on y retrouve le producteur canadien John Dunning, lui qui a produit des films My Bloody Valentine et Happy Birthday to Me. Au niveau de la distribution, on y retrouve l'actrice Marilyn Chambers, Frank Moore, Joe Silver, Howard Rispan, Patricia Gage, Susan Roman, Jean-Roger Perriard, Lynn Duragon, Victor Daisy, Julia Anna et Gary McKeon. Victime d'un accident de la route, une jeune femme est soignée d'urgence dans une clinique privée où un docteur profite de l'occasion pour expérimenter sur elle de nouvelles méthodes de greffe. Malheureusement, le traitement développe chez elle une plaie parasitaire qu'il lui faut apaiser en se nourrissant de sang humain, transférant à ses victimes un germe d'une forme de rage virulente et inguérissable qui causera une épidémie à travers la ville de Montréal. Fort du succès financier confortable de son dernier film Shivers, la firme productrice Cinépix bénéficiera d'un retour de son investissement proche des 5 millions de $ au box-office mondial. Spécialisée jusque-là dans le cinéma d'exploitation érotique, la jeune compagnie de production souhaitera évidemment continuer sa collaboration avec le jeune réalisateur canadien David Cronenberg. Cependant, le gouvernement canadien, lui, fut davantage embarrassé de voir son nom associé à l'œuvre qui causa de forts remous à l'Assemblée nationale. À cause de cette raison, il fut difficile de trouver du financement pour le nouveau projet puisque l'on ne pouvait plus faire appel au gouvernement canadien. Cronenberg écrira alors le scénario intitulé Mosquitoes, qui sera alors de nouveau produit par la société Cinépix et notamment le producteur exécutif Ivan Reitman, qui était très enthousiaste à l'idée de participer à ce nouveau long-métrage du réalisateur canadien. Ce sera finalement la province de Québec qui répondra à la demande de financement, appelant un tournage à Montréal et dans ses alentours. Le Canadian Film Development Corporation fournira également un certain financement à la production, mais le fera de façon plus discrète. Disposant d'un budget supérieur à celui de son premier film, Cronenberg envisage un tournage beaucoup plus cossu, même s'il reste cantonné dans la série B indépendante. Rapidement, le titre de la production sera changé par Rabid et Cronenberg débutera alors son travail de pré-production. Au départ, Cronenberg envisage d'engager la comédienne Sissy Spacek pour incarner l'héroïne du film, l'actrice l'ayant subjuguée par son jeu dans le long-métrage Badlands. Mais suite à son audition, la future star de Carrie ne convainc pas les producteurs en raison de son accent très texan. Le producteur Ivan Reitman proposera alors la jeune actrice Marilyn Chambers, surtout connue pour être une star du cinéma pornographique de l'époque. En effet, Reitman avait entendu dire que Chambers cherchait un rôle principal dans un film commercial et estima qu'il serait plus facile de commercialiser Rabid dans différents territoires si la star du porno bien connue interprétait le personnage principal. N'ayant jamais vu l'actrice dans un de ses films, Cronenberg sera alors impressionné par son travail durant la production. Il s'agira ici du cinquième film dans la carrière de la jeune comédienne qui avait fait ses débuts à Hollywood dans le film de 1970 « The Owl and the Pussycat » qui mettait en vedette Barbara Streisand avant de se tourner vers la production de longs-métrages pornographiques. Le tournage aura lieu de novembre jusqu'en décembre 1976 sur l'île des Sœurs, ainsi que sur la rue Saint-Mathieu et la rue Crémazie à Montréal. Dans l'une des scènes du film, on peut apercevoir une affiche du long-métrage Carrie de Brian De Palma sur lequel apparaissait l'actrice Sissy Spacek, premier choix de Cronenberg, il faut s'en rappeler, pour le rôle de Rose, film qui permettra à la jeune femme de monter au rang de superstar d'Hollywood. Malgré tout, l'actrice Marilyn Chambers travaillera très fort sur ce film et impressionnera tout le monde sur la production. De plus, si vous écoutez attentivement à la 25e minute du film Rabid, vous pouvez entendre en arrière-plan la chanson Benihana, chanson qui fut chantée par Chambers elle-même. Rabid sera distribué à Montréal par Cinépix en juin 1977 et sera par la suite distribué aux États-Unis durant cette même année par les studios New World Pictures. Le long-métrage canadien amassera plus de 100 000 $ après seulement 10 jours de diffusion dans la ville de Montréal et deviendra le film canadien le plus rentable de son époque, amassant plus de 1 million de $ au box-office canadien. Le film sera attaqué de nouveau par les médias, prétendant que le long-métrage était extrêmement violent et parfois même dégoûtant, ce qui aidera bien sûr à sa popularité. Une novelisation de l'écrivain Richard Lewis sortira en 1978, tandis qu'en 2002, le scénario original du film sera publié par Faber & Faber dans la collection David Cronenberg Collected Screenplays 1, Stereo, Crimes of the Futures, Shivers et Rabid. Le film bénéficie depuis 2019 d'une excellente édition Blu-ray disque en MediaBook qui sera distribuée par le petit éditeur indépendant The Ecstasy of Films. Présenté avec une très belle copie restaurée, le film est agrémenté de nombreux suppléments vidéo passionnants, dont un entretien et un commentaire audio avec nul autre que David Cronenberg. Alors qu'en avril 2009, l'actrice Marilyn Chambers décédera à l'âge de 57 ans des suites d'une hémorragie cérébrale à sa résidence de Santa Clarita, en Californie, Rabid obtiendra 10 ans plus tard un remake canadien qui sera réalisé par les réalisatrices Jen et Sylvia Soska et qui mettra en vedette l'actrice Laura Vandervoort dans le rôle de Rose. Du côté des points positifs, eh bien Cronenberg récidive ici dans le même style d'horreur dérangeant qui lui donnera un certain succès avec Shivers. Cependant, sa réalisation démontre ici une plus grande assurance. Beaucoup moins axé sur l'érotisme et la violence que son film précédent, le réalisateur démontre ici une certaine habileté technique qui permet au long-métrage de mieux couler au niveau de l'histoire et surtout au niveau du visuel narratif. Du côté de la distribution, les comédiens sont beaucoup mieux dirigés ici, tout spécialement Marilyn Chambers, qui nous donne une prestation tout de même surprenante. Le réalisateur nous présente ici une œuvre angoissante sur les dangers des expérimentations scientifiques sur le corps humain et les risques de mutation de la nature humaine qui reviennent toujours hanter, à un moment ou à un autre, notre société. Mais du côté des points négatifs, tout comme dans Shivers, le scénario est loin d'être un modèle de construction, ce dernier mélangeant plusieurs thèmes sans que n'apparaisse très clairement un lien entre eux. On ne comprend jamais vraiment pourquoi il y a eu une modification corporelle de notre personnage principal, laissant cette dernière avec un dard très phallique qui apparaît mystérieusement sous son aisselle. De même, la notion de vampirisme n'est pas particulièrement expliquée ici, et encore moins l'idée que cela puisse déclencher par la suite une épidémie de rage. De plus, il est difficile de comprendre que notre personnage principal demeurera pendant plus d'un mois dans le coma et que personne ne s'est rendu compte de cette modification génétique durant toute cette période. La personnalité de Rose change très rapidement. Par moments, on a l'impression que cette dernière est contrôlée par une force extérieure et qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, alors qu'à d'autres moments, elle semble parfaitement consciente de ses gestes, tuant des gens sur son passage, mais ne prenant jamais le temps de demander de l'aide au service médical, alors que cette dernière se trouve dans un hôpital. De plus, la base apparemment scientifique ici est mal développée, particulièrement par des raccourcis douteux où le réalisateur ne prend pas la peine de nous expliquer la raison derrière la perte de mémoire soudaine des victimes qui viennent d'être attaquées par Rose ou encore comment fonctionne cette modification génétique dont elle semble avoir été victime. Finalement, le réalisateur nous met plein de personnages secondaires dont il ne semble pas savoir quoi faire avec eux. De plus, la situation temporelle ne fonctionne véritablement pas. On a l'impression que l'histoire se déroule en moins de 24 heures à partir du moment où Rose sort de son coma et qu'elle s'échappe de l'hôpital, alors qu'en réalité, plusieurs semaines auraient dû passer avant d'en arriver à une situation pandémique aussi avancée. Du côté de la musique, eh bien, il n'y a pas vraiment de compositeur musical. C'est Ivan Reitman, le producteur exécutif ici, qui va jouer le rôle de superviseur musical, lui qui avait fait la même chose sur les productions Shivers, Dead Weekend et Orientation. Je vous mets ici le thème de Rabid. De la cote artistique de Mediafilm, eh bien, c'est un 6. Je lui donne également la même cote, malgré que c'est quand même un film qui est intéressant pour, un, les amateurs de mauvais films, et deux, surtout, les gens qui veulent voir les débuts de la carrière de David Cronenberg. Au niveau de la régie du cinéma, eh bien, la régie du cinéma donnait un 13 ans indicatif. Moi, je lui donne un 14 ans solide. Même, j'irais même si j'allais avec les codes d'aujourd'hui, j'irais peut-être avec un 16 ans en plus. Notamment pour cette fameuse séquence où il y a une petite fille qui embrasse un homme pour faire passer son parasite. Séquence qui a été l'élément déclencheur de tous les problèmes, que ce soit médiatique ou que ce soit même au niveau du Parlement. C'est ce qui a tout déclenché. Donc, c'est pas fait nécessairement pour monsieur et madame tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui vont aimer Shivers. Donc, j'y vais vraiment avec une cote de « faites attention, là, c'est pas pour tout le monde ». Principalement, le contenu, bien, sexualité et dépravation, ça semble pas dans le graphique, mais on n'est pas loin. Au niveau de la disponibilité dans les formats DVD et Blu-ray, eh bien, le film est disponible dans les deux formats, dans le DVD et le Blu-ray. Mais ce qui est important, c'est que les versions sont séparées. Je m'explique. Vous avez des versions françaises et vous avez des versions anglaises, mais vous n'avez pas de version bilingue. Donc, si vous cherchez la version française, il va falloir chercher le DVD ou le Blu-ray sous le titre de Frisson. Si vous cherchez la version anglaise, vous devez chercher le DVD ou le Blu-ray sous le nom de Shivers. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Rabid 5. J'y vais également avec un 5, beaucoup mieux que Shivers comme film. Ça, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus intéressant à regarder. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film très indicatif. J'y vais également avec 14 ans, quelques scènes de violence, quelques scènes de nudité, mais rien d'extrême. Je vous dirais que c'est beaucoup moins dérangeant que Shivers. Au niveau du DVD, eh bien, vous pouvez avoir en DVD le Special Edition de Rabid, qui inclut une entrevue avec David Cronenberg, ou encore vous avez la même édition qui est en Blu-ray, et vous avez également l'édition Blu-ray qui est sortie par The Ecstasy of Films, qui est sans contredit la meilleure édition à vous procurer si vous êtes un fan de David Cronenberg. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.